commencer.
Jean-Pierre Genet, bonjour.
Bonjour.
Alors, si on devait vous définir poète de l'image, créateur d'univers ou artisan de l'imaginaire?
Alors là, j'en sais rien. Moi, je faiseur de plaisir pour soi-même, je dirais.
C'est beau, ça.
Et puis, quand on se fait plaisir à soi-même, on espère le partager avec les autres, quoi.
Alors, bon, Valenciennes vous présente la plupart de vos films. Sept films sur près de 30 ans, c'est soit une difficulté de financer vos projets ou de trouver des sujets, ou est-ce que vous aimez prendre votre temps?
C'est-à-dire que pendant longtemps, je les écrivais moi-même, donc c'est long l'écriture. D'abord, il faut trouver un sujet. Moi, je suis très long à trouver des sujets, parce que c'est un sujet qui doit vous porter pendant des années. Après, l'écriture, c'est un long boulot. Après, trouver l'argent. Le faire, c'était des tournages très, très longs parce que c'était des films très compliqués à chaque fois. Et puis, la post-production était longue. Et puis après, à l'époque, on faisait beaucoup de promotions. On voyageait dans le monde entier pendant un an, quasiment. Donc, à l'arrivée, ça faisait 3-4 ans pour chaque film. Donc, c'était un rythme normal. Maintenant, ça se complique parce qu'on veut faire un cinéma plus tourné vers le profit. Et qu'en France, soit c'est des grosses comédies qui ne sont pas mon cinéma, soit des tout petits films cheap, un peu sociaux, qui ne sont pas mon cinéma non plus. Donc, j'ai plus de mal à trouver l'argent. Donc, ça prend plus de temps. Voilà pourquoi aussi.
Alors, créateurs d'imaginaire, il y en a d'autres, David Lynch, oui. Wes Anderson, qui aussi ont des difficultés pour monter leurs films. Quand même.
La plupart des metteurs en scène maintenant qui ont un caractère particulier, je parle plus chez les Américains, ils se retrouvent chez Netflix ou Amazon. Scorsese, les frères Cohen, maintenant ils vont Woody Allen, ils vont sur les plateformes. Ce qui est un tout petit peu dommage puisqu'ils ne sortent plus en salle de cinéma, ce qui est un sujet de polémique, etc. Quoi. En France, c'est plus... tous mes contemporains, je dirais, et moi-même, on galère un peu pour monter les films, quoi. Il faudrait faire les tuches, idéalement, ce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, moi, les tuches.
Alors, l'année dernière, vous aviez exposé vos accessoires de films et vos souvenirs de tournage. C'était à la Halle Saint-Pierre, jusqu'à fin juillet. C'était une façon de transmettre vos souvenirs?
C'était surtout que mon bureau était plein d'objets et que les gens qui venaient étaient assez estourbis de voir tout ça. Et je me suis dit, c'est bête de ne pas partager, autant en faire une exposition. Et comme justement je ne tournais pas, j'ai passé 2 ans et demi à rassembler plein de choses. Voilà. Et du coup, ça a donné une magnifique exposition qui a fait 52 000 visiteurs et qui est maintenant à Lyon au musée Miniature et Cinéma, rue Saint-Jean, et qui va faire 130 000 visiteurs aussi. Donc en tout, on va faire un bon 180 000 visiteurs, ce qui est énorme pour une expo de cinéma. Et ce qui était intéressant dans cette expo, c'est qu'il n'y avait aucune explication, il n'y avait pas de texte, rien à lire, c'était que du visuel, parce qu'on a suffisamment d'objets, Marc Caro et moi-même, dans nos films, pour montrer, et les explications étaient simplement dans des écrans où on voyait les objets en situation dans les films.
Et alors aussi, aux souvenirs, vous voulez les faire partager. Comme ça, vous aviez écrit, je me souviens, 500 anecdotes de tournage.
Ouais.
C'est une façon de quoi vous prenez des notes pendant le tournage,
non,
ou vous avez une bonne
mémoire sélective. J'évacue tout ce que je n'aime pas. Mais j'avais fait ce jeu-là pour Studio Magazine à l'époque de la sortie d'Alien. Et donc, je me disais, tiens, ça serait marrant de le refaire pour les autres. J'avais même pensé faire une petite série en les illustrant. Puis je me suis rendu compte que ça n'intéresserait personne, mais à écrire c'était simple, donc je les ai rédigés. Et comme mon frère est éditeur de cinéma chez Leitmotiv à Lille, c'est lui qui l'a édité. Bon, c'est pas le best-seller de l'année, hein, les bouquins de cinéma ça se voit pas comme des petits pains, mais voilà, ça se complète avec un autre livre, Le cinéma de Caro Genet, édité chez Dargaud, avec des illustrations, celui-là, des photos et tout, qui est un peu plus le catalogue de l'expo en quelque sorte. Et là, il y a d'autres anecdotes, ça se complète. Et je me souviens, il y a des petites illustrations faites par Romain Segaud qui avait fait l'animation, avec qui j'ai fait le court-métrage Deux escargots s'en vont, d'après le poème de Prévert, qu'on voit sur YouTube. Il suffit de taper Deux escargots s'en vont, Genet, et on peut le voir.
Alors, vous parlez d'expérience américaine. Bon, il y a quand même Alien la Résurrection en 97, et puis T.S. Pivet 2013. Quels souvenirs gardez-vous de ces deux expériences
Alors, ça n'a rien à voir, parce que Alien, c'était vraiment un film de commande d'Hollywood. Donc, j'en garde une expérience incroyable. À l'époque, j'avais l'impression de subir une pression considérable, ce qui était le cas. Mais je me rends compte aujourd'hui que j'avais une liberté quasi totale, ce que j'aurais pu aujourd'hui. Ça a tellement changé. Les réalisateurs, aujourd'hui, c'est interchangeable, c'est plus des techniciens. À l'époque, j'avais vraiment une grande liberté. C'est vraiment mon film. T.S. Pivet, c'était un film européen tourné aux États-Unis, mais dans un film franco ou canadien. Donc, voilà. Malheureusement, on n'échappe jamais complètement aux Américains, puisque Gaumont a eu le malheur de le vendre à un certain Harvey Weinstein, dont on a un petit peu parlé récemment. Et donc, comme ce monsieur ne veut pas posséder que les femmes et tout le monde, ses collaborateurs et les auteurs, ben, il a mis le film dans un tiroir puisque j'ai refusé de le laisser remonter à sa façon. Et donc, il m'a puni et il a laissé mourir le film sur une étagère pendant 2 ans avec interdiction pour le monde entier de le sortir avant lui.
Et maintenant, c'est lui qui est puni.
Maintenant, je pense qu'il va nous foutre la paix. Je pense qu'on devrait être assez tranquille.
Parler justement de Netflix et de toutes ces plateformes, est-ce que c'est maintenant l'avenir pour les réalisateurs?
Il semblerait que ça en prend le chemin, puisque les frères Cohen, Martin Scorsese, avec un budget de 176 millions,
énorme,
Scorsese,
quand même, hein, ouais.
Les frères Cohen, je viens de le dire, Woody Allen chez Amazon, ouais. Tous se dirigent vers ces plateformes parce que plus personne ne veut produire des petits films indépendants, intéressants. Maintenant, le monde se simplifie. Il y a les Marvel Comics à Hollywood et puis les petits films indépendants qui vont sur les plateformes. En France, c'est les grosses comédies que plus personne ne veut faire que ça, les Tuches, les Nouvelles du Bon Dieu, tout ça, ou des tout petits films sociaux avec des sujets sociaux contemporains, l'inceste, les femmes battues, et ce genre de choses, quoi. Et maintenant, c'est plus difficile de faire des films entre les deux.
Et les contraintes, bon, finalement, quand vous faites des films de publicitaires, Lindt, donc c'était fin de l'année, ou même pour Marriott International, le Bonvoy, c'est ça, qui est sorti début d'année, est-ce que c'est la même liberté qu'avant?
Non, dans les années 80, il y avait peut-être plus de liberté, mais il y a toujours des clients derrière qui veulent vendre leurs produits. C'est normal, ça, c'est de la publicité, c'est fait pour ça, c'est eux qui payent quand même. Mais on trouve toujours un petit créneau de liberté, toujours des idées, avec toujours un peu de frustration quand on vous les jette pour des mauvais motifs. Il y a des clients qui sont quand même particulièrement doués pour se tirer une balle dans le pied, sans s'en rendre compte. Mais il y a quand même un espace de liberté et de plaisir de faire. Et ce qui est génial dans la pub, c'est que c'est l'opportunité de voyager, puisque les pubs se tournent toujours à l'étranger. Donc, un coup, c'est l'Afrique du Sud, un coup, c'est l'Australie. Là, j'ai voyagé dans le monde entier en un mois et demi, de Dubaï à Tokyo, à Nashville, au Grand Canyon, dans la montagne en Suisse. Enfin, c'était génial, quoi.
Mais toujours quand même avec un univers... de jeûner, quoi.
Ouais, si on vient me chercher, c'est pour que je fasse du jeûner. Et puis moi, je ne me rends même pas compte, hein, je fais ce que je sais faire. Et souvent, on me dit, oh là, ce plan-là, il est très jeûner. Je dis, ah bon, je ne vois pas, moi, c'est normal, quoi.
Vous avez un peu la même réaction quand vous avez vu le Guillermo del Toro, non?
Alors ça, c'est autre chose. Ça, Guillermo, c'est un ami, donc je lui ai écrit, mais qu'est-ce que tu nous fais, là? T'as pas besoin de piquer les idées des autres, enfin bon. Et puis, il m'a répondu, non, mais tous les deux, on est inspirés par Terry Gilliam. Et puis, on est à Lyon, et puis il mange juste à côté de nous avec Marc Caro. Alors, je lui tape sur l'épaule, je lui dis, tiens, je te présente Marc Caro, inspiré par Terry Gilliam. Alors, il m'a dit, mais non, je ne vous ai rien piqué, la salle de bain de Délicatessen, je l'ai vécu quand j'étais petit. Je lui dis, c'est ça, oui, fais, prends-moi pour une bille, essaye de remplir une salle de bain, tu vas voir si la serrure ne casse pas avant qu'elle soit pleine. Tu vois. Voilà, donc, ça m'a fait rigoler. Coco Chanel disait, tout ce qui n'est pas piqué n'est pas intéressant. Mais je n'ai pas bien compris, parce que c'est un homme d'imagination. Il suffisait qu'il dise, oui, c'est un clin d'œil à Délicatessen, et puis ça passait mieux, quoi. Voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas plus que ça.
Alors, vous avez plein de projets, quand même, au niveau cinéma. Moi, il y a 3 scénarios écrits, 4. C'est ça? 4, maintenant.
Même 5, avec un film d'animation.
Alors, la comédie sur l'intelligence artificielle, vous dites quelques mots?
C'est un truc marrant, mais que j'ai un peu du mal à monter, parce que ça parle un peu avec des robots, donc on n'est pas dans le contemporain total, justement. Mais j'ai un casting formidable. Pour le moment, j'ai Audrey Fleurot, j'ai Clovis Cornillac, Isabelle Nanty, Elsa Silberstein, j'ai Alban Lenoir, j'ai Mathieu Kassovitz, j'ai André Dussolier, j'ai UGC derrière moi. Je devrais y arriver, mais c'est pas facile. Parce qu'il y a des robots, simplement. Tiens. Aujourd'hui, il faut plutôt être dans le total contemporain. Vous voyez ce que je veux dire?
Et le rapprochement à l'univers Jeunet?
Ce sera toujours du Jeunet, parce que c'est un humour un peu grinçant, et ça sera filmé d'une manière un peu spéciale. Enfin, j'espère.
Alors, bon, le sexe?
Alors, le sexe, c'est en train de devenir une série. Ça va peut-être devenir une série. Après, c'est une question de moyens, parce qu'il faut quand même, si on veut faire du visuel et pas entendre des gens parler de sexe, il faut un peu les moyens, donc on est en train de travailler là-dessus.
C'est du Me Too, puisqu'on parlait justement de Weinstein.
Ça sera justement tous les aspects, tous les côtés de cet aspect, avec tous les points de vue, plutôt, mais avec un peu d'humour, bien sûr. Et puis, il y a un autre très beau sujet, qui est un scénario écrit par Laurent Tirard et sa bande, et qu'il ne veut pas faire, pour des raisons, d'autres raisons. Et donc, on l'a réécrit avec Guillaume Laurent, c'est une très belle histoire, ça, je ne la raconte pas. Et j'espère qu'on va arriver à le faire aussi, celui-là. C'est une belle histoire qui est moins du Jeunet, mais une belle histoire.
Le quatrième,
C'est un film plus classique. C'est l'histoire d'une aviatrice de début de siècle et une société française, la CIS, SND pour ne pas les nommer, voudrait le faire en anglais. Donc on est en train d'essayer de trouver une star américaine ou anglaise pour le faire.
Parlez séries. Vous avez failli faire une série sur Casanova.
Oui, j'ai fait le pilote.
Ouais, ouais. Ouais.
C'était très très beau le pilote, sauf que le marketing avait choisi, vous savez que le marketing a pris le pouvoir dans tous les domaines, donc ils avaient choisi l'acteur qui était Diego Luna, qui est un super acteur, je me suis vraiment bien entendu avec lui, mais il me semblait qu'il n'avait pas la présence d'un Casanova, que c'était plus un gangster mexicain que... Non, mais il excelle dans ce genre de rôle, quoi. Il ne pouvait pas s'empêcher d'aller vers ça, d'ailleurs. Et nous, on ne m'a pas écouté, et on a pris Diego Luna, et à l'arrivée, ils ont soumis, ça se passait comme ça chez Amazon, ils soumettaient pendant un mois le pilote aux internautes et demandaient les avis. Et les gens ont dit, mais pourquoi un Mexicain pour jouer Casanova? Donc, ils n'ont pas fait la série. Si on m'avait écouté, ils auraient économisé 9,5 millions de dollars.
Frustrant, non?
Moi, j'avais fini mon travail. De toute façon, j'aurais pas été plus loin. Mais frustrant de se dire que c'est bête de voir des gens, par incompétence, se tirer une balle dans le pied et foutre en l'air 9,5 millions de dollars. C'est quand même rageant, quoi.
Mais le choix de faire une série, c'est... Vous parliez de vivre longtemps avec un projet. Une série, c'est encore pire.
Alors là, j'étais juste l'auteur, le réalisateur du pilote. Mais la série sur la sensualité, le désir que j'ai écrit avec Guillaume Laurent, là oui, on serait plus showrunner en quelque sorte. On n'écrirait pas tout seul, il y aura quelqu'un qui travaillera avec nous, comme on est en train de caster en ce moment. Mais oui, là ça prend plus la tête, évidemment.
Alors ce qui est assez surprenant, c'est quand vous dites à Amélie Poulain, on ne saurait plus le refaire maintenant.
C'est ce que tout le monde me dit. Hein? Parce que c'est justement trop décalé, trop particulier, avec trop de fantaisie. Aujourd'hui, on cherche à pas prendre de risques. Mais c'est le monde qui veut ça, faire du profit sans prendre de risques, sans risquer son argent. C'est dommage parce que le cinéma a besoin de diversité, parce que si on ne veut pas prendre de risques, il faut faire de l'immobilier, il ne faut pas faire du cinéma, quoi. Et autrefois, je joue un peu les vieux cons, mais il y avait des producteurs. Je suis en train de lire les mémoires de Jean-Jacques Hano. Mmh. Il raconte des sortes de producteurs. Il y en a un qui avait revendu tout son immeuble pour produire Le Nom de la Rose. Et il a gagné de l'argent, il a racheté l'immeuble après. Il a pris le risque, le mec. Mmh. Alors Hano le bénit d'avoir fait ça aujourd'hui, mais qui ferait ça?
Parler d'Hano, justement, il a fait son IMAX sur l'aviation.
Oui.
L'IMAX, c'est une façon de, pour vous aussi de faire du cinéma?
Pourquoi pas? C'est déjà tellement difficile de faire un film au jeu normal. Moi, j'ai fait un film en 3D, ce qui avait été compliqué techniquement. C'était l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivette. Donc, on a déjà bien donné dans la technique. À chaque fois, on utilise des innovations techniques avec Marc Caro ou moi-même. Donc là, l'IMAX, c'est encore autre chose. Je dirais déjà, j'aimerais bien faire un film tout simple, sans forcément d'IMAX. L'image, la réalité virtuelle m'intéresse aussi. Mm-hmm. Pourquoi pas? Mais là, pour le moment, la réalité virtuelle se heurte à un problème de distribution. On ne sait pas trop comment voir les projets, quoi, les trucs.
Jean-Pierre Jeunet, un grand merci.
Merci à vous.